Ok. Donc, bon, ils vont réarriver au fur et à mesure. De toute façon, je l'enregistre, le fichier. Donc, on a vu disons la règle structurante de principe sur l'organisation du procès, à minima du procès civil, et la répartition de la charge de la preuve. Il n'empêche qu'il existe en parallèle de ça ce qu'on appelle des présomptions légales. Ça fait donc l'objet d'un petit 2, et c'est un cas particulier qu'il faut essayer de bien cadrer. Il y a des termes qu'on a déjà rencontrés, mais qu'on va avoir l'occasion d'approfondir ici. Dans certains cas, il va exister des présomptions, je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça renvoie, pour faciliter en quelque sorte le travail probatoire, la recherche de la preuve. Dépêchez-vous de vous réinstaller et chut, s'il vous plaît, merci. Chut. Donc, il y a deux types de présomptions selon la source. Les présomptions légales et ce qu'on appelle les présomptions de l'homme. Les présomptions de l'homme, s'il vous plaît, quand vous rentrez en silence. Les présomptions de l'homme, qui sont en fait des présomptions qui sont proposées au juge par les parties, je les laisse de côté, on les verra la semaine prochaine. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on appelle les présomptions légales. La présomption légale, c'est une particularité parce que c'est une exception au principe qu'on vient juste d'étudier. Par principe, celui qui invoque le fait doit en prouver l'existence. Celui qui invoque quelque chose doit en prouver la réalité. Par exception, cette preuve n'aura pas à être rapportée précisément parce qu'il existera une présomption. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est exceptionnel. Ça vient déroger au principe selon lequel il faut nécessairement prouver tout ce qu'on avance. Dans certaines hypothèses, qui sont rares, mais qui existent, il va y avoir une présomption légale, donc comme son nom l'indique, une présomption qui est imposée par la loi, et qui va alléger la nécessité de rapporter une preuve. Une fois qu'on a précisé ça, qu'est-ce qu'elle veut dire ? L'expression même de présomption légale. La présomption légale, ça veut dire que la loi, la règle, le législateur, tournez ça comme vous voulez, va, c'est le fonctionnement des présomptions, tirer d'un fait connu des conséquences pour un fait inconnu. La présentation classique, c'est ça. On tire d'un fait connu des conséquences relativement à un fait inconnu. La définition, vous l'avez à l'article 1354 du Code civil. Je vous l'ai reproduit ici, ne le notez pas. La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple lorsque la loi réserve la preuve contraire et peut être renversée par tout moyen. Elle est mixte lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée. Elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée. On va évoquer ces trois hypothèses, simple, mixte, irréfragable. On en a déjà un peu parlé, au moins pour les simples et irréfragables. Mais on va revenir là-dessus dans le détail maintenant. Un mot d'abord du premier alinéa. La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. C'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer il y a une seconde. C'est la même chose. C'est dit dans des termes plus techniques, évidemment, mais c'est exactement cette idée-là. Le législateur décide qu'alors même qu'en principe, il aurait fallu prouver l'élément invoqué, le fait ou l'acte invoqué, le législateur prend la décision d'écarter la nécessité de cette preuve. On va partir du principe que c'est la réalité. Donc on n'aura pas à démontrer cette réalité-là, parce que le législateur, la loi elle-même, va tenir pour acquise la réalité de cette situation. Un exemple que vous approfondirez en droit de la famille au S2. L'article 312, il ne me semble pas que la numérotation ait changé, celui-là j'ai oublié de le vérifier, mais je revérifierai. Vous avez un article dans le Code civil, de mémoire 312, qui énonce que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. C'est ce qu'on appelle la présomption de paternité. Quand un enfant a été conçu ou est né, il y a des délais précis dans le code que vous verrez au second semestre. Dans des liens de mariage, on part du principe, on tient pour acquis le fait que le père, c'est le mari. Cette présomption-là, elle est simple, on le verra dans un instant. Mais, sur le fonctionnement, quand je vous disais tout à l'heure, on tire d'un fait connu des conséquences pour un fait inconnu. Ici, le fait connu, c'est la conception ou la naissance de l'enfant pendant le mariage. Ça, c'est le fait connu sur la présomption de paternité. La loi va admettre, à partir de ce fait connu-là, l'existence d'un autre fait qui est la paternité du mari de la femme. Si on a le fait connu, encore une fois, que l'enfant a été conçu ou est né pendant le mariage, alors le législateur va en déduire que le père de cet enfant conçu ou né pendant le mariage, c'est le mari. Ça veut dire que vous n'avez qu'à prouver que deux faits au lieu de trois. Vous devez prouver que le couple était marié au moment de la conception ou de la naissance et que c'est bien l'enfant de la mère, de la femme mariée. Si vous avez ces deux éléments-là, le législateur considère qu'il n'y a pas à rapporter la preuve de la paternité du mari. On la tient pour acquise jusqu'à preuve contraire. Voilà. On ne requiert pas, dans un premier temps, la preuve biologique de la paternité. On déduit la paternité de l'existence du mariage et du moment de la naissance ou de la conception de l'enfant. C'est une présomption légale. Là où, en principe, il aurait fallu prouver la paternité, on tient cette paternité pour acquise et à celui qui la conteste de faire tomber cette présomption. Je vais vous expliquer maintenant, je vais vous réexpliquer puisqu'on en avait déjà un peu parlé, mais le concept de présomption simple, jusqu'à preuve contraire, le père de l'enfant né ou conçu pendant le mariage, c'est le mari. Voilà. Une présomption légale, ça fonctionne comme ça. Alors, une fois qu'on a précisé ça, il faut décortiquer la suite de 1354 et donc identifier le trio de présomptions possibles. Trio, jamais très clair quand je fais des schémas comme ça, mais il y a une idée d'intensité. La présomption peut être simple. Si elle est plus cadrée, elle va être mixte. Si elle est complètement verrouillée, elle sera irréfragable. Ce n'est pas le même degré d'intensité. Donc, évidemment, je dis un mot sur chacune des catégories. La présomption simple, c'est ce que vous dit la loi. Hein, là, je paraphrase pour le coup. La présomption est simple quand la loi réserve la preuve contraire et cette présomption, elle peut alors être renversée par tout moyen de preuve. Autrement dit, et vous vous souvenez, on en avait déjà un peu parlé, donc je vous renvoie aussi à ce qu'on avait dit sur les présomptions simples. La présomption simple, elle peut être renversée, elle peut être détruite. On tient pour acquis, ok, mais ce n'est pas un absolu, on tient pour acquis jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. S'il n'y a pas de preuve contraire rapportée, on garde notre réalité présupposée comme ça. S'il y a une preuve contraire qui est rapportée, alors la présomption tombe. Typiquement, la présomption de paternité dont je viens de vous parler à l'instant, c'est une présomption simple. Le mari est tenu comme étant le père et regardé et considéré par le législateur comme le père de l'enfant. Si on rapporte une preuve contraire, alors cette paternité tombe. Cette présomption de paternité peut être renversée par la preuve contraire. La preuve la plus utilisée aujourd'hui, évidemment, c'est le test ADN. Une analyse pour vérifier si la paternité est vérifiée sur le plan biologique ou pas. C'est la preuve la plus courante. On peut envisager éventuellement d'autres modalités de preuve. Hein. Ok, on était bien dans les liens du mariage, mais en fait, comme je travaillais à l'étranger, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Compliqué. Voilà. Donc, la preuve souveraine dans ces questions, ces problématiques-là aujourd'hui, notamment parce que c'est devenu extrêmement fiable, c'est une preuve... comment dire, biologique, il n'empêche qu'on peut envisager d'autres modalités de preuve. La stérilité de l'époux est quand même un élément aussi qui est parlant dans un contentieux comme celui-là. Il y a plusieurs hypothèses. J'y pense, je fais encore un aparté, c'est mon grand truc aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'y pense parce que ça me déclenche un warning pour vous, je ne crois pas qu'on en ait déjà parlé. Est-ce que j'ai déjà évoqué avec vous les sites... C'est un peu moins à la mode maintenant, mais on en a beaucoup parlé pendant une période, on le voyait partout. Les sites qui vous proposent d'envoyer un élément de vous pour faire un test ADN et retracer si vous avez des ancêtres au Chili, etc. Tout le monde voit de quoi je parle. Faites pas ça. Pour deux raisons. D'abord, parce que en fait, la réalité de l'analyse en fonction des acteurs du numérique qui vous proposent ça est incertaine. Ensuite, surtout parce que c'est des données extrêmement sensibles, vos données biologiques, et que c'est stocké. Et que c'est stocké parfois dans des pays qui sont moins vigilants que nous sur l'utilisation des données personnelles. Ne faites surtout pas ça. Ne faites pas stocker vos données biologiques par une société parce que ça vous fait rigoler de savoir si vous avez des ancêtres au Népal ou... C'est vraiment, je vous le déconseille. On ne sait pas dans quelle mesure ça peut être utilisé. Il peut y avoir dans vos ADN... Je prends un exemple tranché, mais parce que, par définition, aujourd'hui, c'est des questions qui se posent. Vous avez un risque accru de développer, par exemple, mesdames, un cancer féminin. Et ça, maintenant, ça se lit dans des analyses. On sait que, voilà, vous avez des femmes qui sont plus à risque que d'autres... des gènes qui apparaissent, etc. Et ça, c'est stocké. Mais vous savez, vous, si c'est pas revendu derrière à des compagnies d'assurance ou des compagnies bancaires qui, du coup, vous assureront pas, parce que vous êtes la fille de quelqu'un qui a un risque et qu'on sait que c'est génétique. Faites très attention à ce que vous faites de tout ça. Plus largement, faites attention à ce que vous faites de vos données perso, alors. Sur une génération comme la vôtre, j'ai l'air d'une vieille réac quand je dis ça, mais faites attention à l'utilisation de vos données personnelles. Aujourd'hui, la traçabilité de ce que vous êtes, notamment, ça fait dériver, mais c'est la même problématique avec les outils numériques, sur vos données personnelles, il n'y a pas que les questions de données de santé et de données biologiques. Il y a plein de... Il y a plein de données, alors ça rend toujours un peu psychotique, mais il y a plein de données qui, le cas échéant, peuvent être utilisées. J'en sais rien, moi. Vous activez toujours le positionnement sur vos téléphones en permanence, la position. Parce que, admettons que toutes les semaines, vous soyez positionné au même endroit dans un service hospitalier 6 heures par jour. Tous les mercredis, vous passez 6 heures à l'hôpital. Et il y a un service de cancérologie, là, bien connu. Qu'est-ce qu'on fait de vos données de géolocalisation quand on sait ça? Est-ce que derrière, il y a des assureurs qui peuvent avoir accès à ça et se dire « Ouh, c'est bizarre ». Faites gaffe. C'est juste un aparté, mais il y a un côté parfois avec ce qui est proposé en ligne, les sites, les outils numériques que vous avez en votre possession, qui sont hyper utiles, parfois hyper ludiques, comme les tests sur le fait de remonter ses origines, etc. Allez-y prudemment, voilà. Ayez conscience du fait que vos données personnelles, l'air de rien, elles sont précieuses et que vous n'avez pas forcément envie qu'on puisse redéterminer plein de choses de vous à partir d'elles. Et c'est de plus en plus le cas. Et c'est ce que je vous dis aussi quand je vous dis de faire attention à ce que vous mettez en ligne. Le concept de disparition totale du contenu en ligne est plus que relatif aujourd'hui. Je ferme ma parenthèse, mais je voulais vous parler de ça. Donc, exemple de présomption simple, la paternité dans le mariage. Encore une fois, évidemment, on ne va pas en faire une présomption irréfragable de celle-là, ça n'aurait aucun sens. De dire, à partir du moment où vous vous êtes marié, l'enfant a pour père le mari. Même si biologiquement c'est démontré que c'est impossible que ce soit lui, c'est lui. Vous vous êtes marié, c'est lui. Évidemment, à chaque fois réfléchissez sur le sens de pourquoi on dit simple ou irréfragable, le cas échéant mix, mais ça a un sens à chaque fois. Pourquoi est-ce que le législateur permet ou ne permet pas de sortir de la présomption, de faire tomber la présomption? Là, la présomption de paternité, c'est une facilité probatoire. On se dit, bon, en principe, mais c'est le sens d'une présomption, s'il y a un lien de mariage, on a tendance à considérer que le père de l'enfant né dans le cadre du mariage, c'est le mari. Oui, enfin, c'est pas une réalité absolue. Donc cette présomption-là, qui est une facilité probatoire, on permet évidemment de la renverser. Deuxième hypothèse, la présomption mixte. C'est une espèce d'entre-deux, entre la présomption simple et la présomption irréfragable. Donc, la présomption irréfragable, j'y reviens dans un instant, mais on en avait déjà parlé, vous vous souvenez, c'est celle qui ne peut pas être renversée. Donc vous en avez deux, une simple, on peut la renverser, une irréfragable, on ne peut pas la renverser. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle la présomption mixte. Alors, là encore, je reprends. S'il vous plaît. Je reprends les termes de la loi. La présomption est mixte lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée. Ça veut dire que, comme pour la présomption simple, la preuve contraire est possible. On ménage la possibilité de faire tomber la présomption quand elle est mixte. Mais elle n'est pas, contrairement à la présomption simple, complètement libre, cette preuve contraire. Elle doit être administrée, c'est-à-dire rapportée avec certains modes de preuve précis ou en établissant certains faits précis. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en défaire par n'importe quel mode de preuve, comme dans la présomption simple. Seuls certains modes de preuve, seules certaines preuves de certains faits précis vous permettront de vous libérer. Exemple, l'année prochaine, quand vous ferez du droit de la responsabilité, vous verrez les hypothèses qu'on a déjà un peu survolées en intro, qui sont les hypothèses de responsabilité sans faute, ce qu'on appelle les responsabilités objectives, et notamment la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Vous invitez vous êtes parent, vous avez un enfant et vous invitez un des copains ou des copines de votre enfant pour le goûter. Et vous avez fait des crêpes et en fait, pas de bol, l'un des deux enfants a fait tomber la crêpe sur la tête du petit invité. Alors la crêpe si vous avez de la chance, la poêle si vous avez moins de chance. Et si lui a moins de chance. Et les parents vont dire « Oui, mais c'est votre gosse à vous, il a fait n'importe quoi, il a attrapé la poêle, ça lui est tombé dessus, vous êtes responsable parce que c'est votre enfant. » Et vous allez essayer de vous défendre pour faire tomber cette présomption. On va partir du fait que vous êtes responsable du fait de votre enfant, mais il est possible de se libérer en démontrant soit un cas de force majeure, j'invente complètement, mais c'est pour vous donner une hypothèse, on a dit tout à l'heure, par exemple, dans les forces majeures, dans les cas de force majeure, il y a le fait de la nature. En disant, mais mon enfant n'y est pour rien, il y a eu un tremblement de terre et c'est ça qui a fait bouger la poêle et donc elle est tombée sur votre enfant. Alors les tremblements de terre en France, on est quand même relativement épargnés, donc c'est difficile à envisager, mais admettons, autre fait libérateur de cette présomption-là, la faute de la victime. Mais c'est pas le mien l'enfant, hein, c'est vous, c'est le vôtre. Hein. Il s'amuse à chanter en attrapant la poignée de la poêle, bon bah au bout d'un moment, lui est tombé dessus. Se posera évidemment à ce moment-là une question probatoire. Qui va réussir le mieux des deux à convaincre le juge dans ces cas-là? C'est compliqué. En règle générale, en pratique, on ne peut pas faire de généralité, ça n'aurait pas de sens. Mais le courant tend plutôt à retenir la responsabilité objective des parents dans ces cas-là. Voilà. La faute de la victime comme cause exonératoire, elle est parfois difficile à prouver. Mais c'est pour vous donner un exemple, en tout cas, l'exemple de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ou du fait des choses, du propriétaire du fait de sa chose, c'est des hypothèses de présomption légale mixte. Vous êtes présumé responsable, mais dans certaines hypothèses, il y aura des portes de sortie. Voilà. En fait, il faut vous le représenter comme ça. Ne l'écrivez pas comme ça dans les copies, évidemment, mais pour l'apprendre, c'est l'idée. La présomption simple, toutes les portes sont ouvertes pour sortir de la présomption. Peu importe la porte que vous prendrez, dès lors que vous en aurez trouvé une pour démontrer l'absence de réalité de ce qui est présumé, vous pourrez sortir. Présomption mixte, il n'y a que quelques portes qui sont ouvertes. Tout ne vous est pas permis pour faire tomber la présomption, mais on vous laisse quelques portes de sortie. Et donc, si on file la métaphore, troisième hypothèse, la présomption irréfragable, et là, toutes les portes sont fermées. Il n'y a plus de portes pour sortir. Dans une présomption irréfragable, on tient pour acquis et elle ne peut pas, là encore je reprends les termes de 1354, elle ne peut pas être renversée. Vous pouvez chercher à apporter toutes les preuves contraires que vous voudrez, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun moyen de sortir d'une présomption irréfragable. Ça peut vous paraître étonnant, la création de présomption irréfragable. Alors, on avait déjà parlé d'une hypothèse où elle était légitime. C'était l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », où on avait expliqué que ça, si c'était une présomption simple, on s'en sortait plus dans une société. Donc, on est tous irréfragablement présumés connaître la loi, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas renverser. Il y a d'autres hypothèses dans lesquelles elle est légitime, cette présomption irréfragable. Je vous ai pris un exemple, on pourrait en prendre des dizaines d'autres. Vous avez un article dans le Code civil, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'on entend parfois des faits divers un peu là-dessus. L'article 909 du Code civil interdit aux membres d'une profession médicale ou de pharmacie, et ça s'étend aussi aux auxiliaires médicaux qui se sont occupés d'une personne dans le cadre d'une maladie qui va finir par l'emporter, de recevoir des donations ou des legs. Les donations, donc encore une fois, donation c'est du vivant, legs c'est du fait de la mort. Les donations ou les legs qui auraient été faits par la personne dont se sont occupés les soignants, pour faire une grosse catégorie, vous irez voir les catégories précises dans l'article, ces donations ou ces legs, ils sont irréfragablement réputés, présumés, illicites et donc nuls. Vous pourrez démontrer ce que vous voulez. Oui, j'étais son infirmière à domicile, mais on a développé des liens tels que c'est devenu ma meilleure amie et c'est pour ça qu'elle m'a donné 6000 euros tous les mois. Non. On va considérer que là, il y a un risque d'abus de faiblesse qui arrive. Je vous passe les détails des affaires qu'on voit dans ces cas-là. Et quand je vous dis, quand vous ferez du droit pénal, il faut être armé. Parfois en contrat aussi. Il ne faut pas se leurrer. Et l'esprit humain là-dessus est très fort pour vous confronter à des situations un peu moyennes sur le terrain moral. Ça arrive très régulièrement. Et donc le législateur ne prend pas le moindre risque. À partir du moment où vous vous occupez d'une personne dans le cadre d'une maladie qui finit par l'emporter, n'importe quelle donation, n'importe quel legs qui aurait été fait à votre bénéfice est nul. Et vous pouvez apporter toutes les preuves contraires que vous voudrez, ça ne sert à rien. C'est nul et il n'y a rien à y faire. Si vous voulez mon avis, et c'est un aparté absolu, tant mieux. Voilà. Ça évite. Évite, c'est ambitieux comme terme. Ça limite les risques de dérive, qui encore une fois sont très fréquents dans ces hypothèses-là. Quand vous ferez du droit des contrats en L2, les hypothèses de nullité des contrats parce qu'on a abusé des personnes vulnérables sur plein de plans possibles, vous allez en rencontrer plein. Voilà. Et des personnes âgées qu'on enferme dans leur chambre jusqu'à ce qu'elles signent une donation ou un truc. Il y a plein d'arrêts de la Cour de cassation là-dessus. Voilà. Donc, au-delà de l'approche morale, je vous vois réagir et vous avez. Et vous avez raison de réagir sur un terrain moral, mais au-delà de ça, heureusement, c'est ce que je vous dis à chaque fois, on fait un pas de côté, on prend un pas de recul en tant que juriste. Il y a des outils pour lutter en amont contre ça. La présomption irréfragable, ça en est un parmi d'autres. C'est un élément qui permet de lutter contre ça, ou a posteriori, une fois que ça s'est passé, d'obtenir l'annulation éventuellement sur le vice de violence, etc., que vous verrez en L2 en contrat, mais qu'il faut déjà connaître. Il y a des outils qui permettent de protéger, notamment dans les hypothèses de vulnérabilité, évidemment. Donc, si je résume sur la question de la place des parties. La place des parties, c'est normalement... Chacun doit prouver ce qu'il invoque. Le demandeur au premier titre, évidemment, le défendeur derrière au second titre, en réponse. C'est ce qu'on appelle en réplique, en droit. Mais exceptionnellement, par exception à ce principe-là de « j'allègue un fait, je prouve le fait », le législateur va considérablement alléger dans certaines hypothèses en allant parfois jusqu'à dire « ça ne sert à rien de prouver, on tient pour acquis la situation que vous invoquez ». À quel degré on la tient pour acquise? Est-ce que celui contre qui elle est invoquée peut la faire tomber? Comme il veut. Si oui, alors elle est simple. Est-ce qu'il peut la faire tomber dans certaines hypothèses en prouvant certains éléments particuliers? Si oui, alors elle est mixte. Est-ce qu'il est dans l'impossibilité totale de la faire tomber? Est-ce que cette présomption n'est pas susceptible de tomber? Alors elle est irréfragable. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction... C'est une question d'intensité. Il y a une intensité plus ou moins importante en fonction du type de présomption qui est retenue. Voilà pour la place des parties, la question de la charge de la preuve sur le demandeur puis le défendeur et la question des présomptions légales. Il faut quand même dire un mot sur la question du rôle du juge dans la recherche des preuves. Je pense qu'on va parler de ça et qu'on va s'arrêter ensuite. On va voir comment on avance, mais je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Donc, je vous l'ai dit, ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur la passivité du juge, le fait que ce soit aux parties de rapporter les preuves, ça, c'est le système civil. Le juge civil est passif dans la recherche des preuves. Cette recherche des preuves, elle pèse sur les parties, le demandeur, le défendeur. C'est différent en ce qui concerne le juge pénal, on va en parler maintenant. Le procès civil, il répond à un système qu'on appelle le système accusatoire. C'est-à-dire que le juge est dans une position de passivité, de neutralité, ça n'est pas à lui de rapporter les preuves, il ne participe pas du tout à cette recherche des preuves, il est en retrait et il attend que les parties lui fournissent les preuves qu'elles ont recueillies chacune de leur côté. Une fois que c'est fait, en fait, il va les peser des deux côtés. Qu'est-ce qui l'emporte le plus ? Qu'est-ce qui le convainc le plus ? Est-ce que c'est les arguments, les prétentions prouvées du demandeur ou du défendeur ? Et dans ces cas-là, soit il va accueillir l'action, soit il va la rejeter. Il va l'accueillir s'il a été convaincu par les preuves rapportées par le demandeur. Il va la rejeter si le demandeur ne l'a pas convaincu et qu'au contraire, il est davantage convaincu par l'argumentation étayée, donc prouvée, du défendeur. Ça, c'est le système civil. Pourquoi est-ce que on précise que c'est différent en pénal ? Parce que précisément, le système pénal, c'est un système qu'on appelle inquisitoire. Alors là encore, ça vient du latin, hein. C'est l'enquête en latin, l'inquisition. Voilà. Donc ça repose sur un système d'enquête, finalement. Le juge, en droit pénal, est à la tête de la procédure. Il est plus passif du tout quand il s'agit d'une action sur le terrain pénal. Tout le monde a déjà entendu parler, même si vous n'avez pas encore fait ça en IAJE, tout le monde a déjà entendu parler des juges d'instruction. En fait, le juge d'instruction, sa mission par définition, c'est d'instruire, c'est-à-dire de rechercher, de tout faire pour mettre en œuvre et révéler la manifestation de la vérité. Et pour ça, il va procéder à des enquêtes, à des auditions, à la recherche d'éléments probatoires, etc. C'est lui qui a, j'allais dire le lead, n'écrivez surtout pas comme ça, mais c'est l'idée. C'est lui qui dirige, et parce que c'est lui qui dirige, il a de facto un rôle actif, et comme il a un rôle actif, c'est lui qui, le premier, recherche la preuve. Et c'est pour ça que dans le procès civil, c'est particulier, parce qu'en fait, le rôle des parties civiles, il est un peu secondaire là-dessus. C'est pas à elles de rapporter la preuve. Ça fonctionne pas comme ça. Donc il faut bien retenir la dualité des systèmes. Le système accusatoire, c'est le juge civil. Le système inquisitoire, c'est le juge pénal. Donc, en fait, ce qu'on a exposé de la place des parties, ça vaut pour le système civil, pour le contentieux civil. Quand vous êtes dans un contentieux pénal, vous ferez de la procédure pénale l'année prochaine, je crois, vous verrez que la recherche des éléments probatoires dans un procès pénal est différente. C'est assez logique quand on reprend ce qu'on s'était dit sur les divisions du droit. Souvenez-vous, quand on a parlé du pénal, je fais des liens, mais c'est pour que tout s'éclaire aussi de manière un peu différente. Quand on a parlé du pénal dans les divisions du droit, on avait expliqué qu'il était difficile à catégoriser. On l'avait mis dans les droits mixtes pour ces raisons, en disant, parce qu'on est obligé de le mettre dans l'un des deux, on a fini par le mettre dans le privé, mais en fait, le pénal, il y a aussi une recherche de la protection de l'intérêt général, de l'intérêt de la société, etc. Et en fait, du coup, ça explique le rôle du juge. Le juge, c'est une émanation de l'État. Hein. Il a un rôle de représentant de l'État. Quand il tranche pas en son nom propre de Monsieur Robert Machin. Il tranche pour l'État. C'est l'État qui décide à travers la parole du juge quand il y a un contentieux qui est tranché. Bon. Dans un procès pénal, l'importance pour la société de régler la question du contentieux fait que le fait de mettre le juge au centre de la recherche des preuves et donc la puissance excusez-moi la puissance publique, parce qu'encore une fois il est une émanation de la puissance publique, de ne pas laisser juste aux parties la charge de regrouper les preuves, mais de dire que c'est à la puissance publique en pénal de regrouper les preuves et c'est à elle que ça incombe, finalement c'est pas illogique. Quand on fait société, on se dit que oui, c'est pas mal que ce soit la puissance publique qui soit chargée de ça quand on est sur un volet pénal. Civil, c'est différent. Mais donc là encore, apprenez pas par cœur. Pourquoi on fonctionne pas pareil au pénal, au civil ? Bah, sans doute que les enjeux sont pas les mêmes pour la société. Donc la place de... La figure de la puissance publique qui est incarnée par le juge est différente pour ces raisons-là. Parce que les enjeux, selon qu'on est dans un contentieux civil ou pénal, sont des enjeux de nature différente. Et ça explique, du coup, une adaptation de la place du juge. Voilà. Et c'est ce type de réflexion qu'il faut que vous essayiez de mener. Un mot du procès administratif, là aussi, vous serez dans un système plutôt, il y aurait des nuances à apporter, mais plutôt inquisitoire, quand c'est un procès administratif. Ça, c'est des rappels assez classiques. Il est vrai que je manque un peu de précision quand je m'arrête à ça, et qu'en réalité, quand vous allez faire du droit de la procédure, et notamment du droit de la procédure civile, vous verrez que, en droit moderne, les prérogatives du juge, y compris du juge civil, ont tendance à se développer, et qu'on trouve aujourd'hui certains juges, certaines catégories de juges, dont les pouvoirs se sont étendus, et où on a l'impression, alors même que c'est un juge civil, que c'est plus complètement un juge passif. Exemple, que vous approfondirez en procédure civile, mais qu'il faut que vous connaissiez dès maintenant, c'est le cas du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état, qui est une des catégories de juges civils qui existent, l'un de ses objectifs, l'une de ses missions, c'est de s'assurer que la procédure se déroule de manière loyale, que la communication des pièces entre les parties s'opère bien, etc. Pour exercer ces missions-là, le juge de la mise en état va parfois avoir à entendre certaines parties, à ordonner la production de certaines pièces, etc. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que finalement, dans ce cas-là, il est plus purement passif, comme le juge civil traditionnel, en tout cas, comme la façon dont on présente traditionnellement le juge civil. Il y a aujourd'hui, en droit de la procédure moderne, des hypothèses, y compris dans le contentieux civil, dans lesquelles le juge est plus pleinement passif face à la recherche, à la constitution des éléments de preuve, et où il va avoir un rôle. Alors, le rôle du juge de la mise en état n'atteint pas le niveau du juge pénal. L'idée, ce n'est pas de vous dire qu'on bascule dans un système acquisitoire quand on est face à un juge de la mise en état, mais c'est une espèce d'entre-deux. Voilà. La frontière est plus complètement étanche, et sur certaines catégories de juges civils, au premier titre, à mon sens, le juge de la mise en état, il y a effectivement certains éléments où il ne va pas jusqu'à conduire la recherche de preuves, mais enfin, il n'est plus complètement passif non plus. Donc, il est dans un entre-deux. On en termine là avec la question de la charge de la preuve. Vous avez maintenant l'ensemble du panorama. On fera les modes de preuve la semaine prochaine. Bon courage pour la semaine, à la semaine prochaine.